Bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 24 juillet, Chérubin Dorsil et Morgane Guériec en votre compagnie. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Un avion de ligne algérien transportant 116 personnes s'est écrasé dans le nord du Mali.
D'après les dernières informations qui m'ont été communiquées par le gouvernement burkinabé, 51 Français se trouvaient à bord.
Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius.
Au lendemain de l'accord inter-centrafricain à Brazzaville, la présidente de la transition annonce la formation d'un cabinet d'ouverture.
Donc nous allons ouvrir les bras à nos frères, à nos sœurs qui sont d'autres sensibilités politiques, religieuses, communautaires, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire la République centrafricaine.
Catherine Samba-Panza. Conflit israélo-palestinien, le bilan s'alourdit à Gaza et nous aurons bien sûr les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Un avion d'Air Algérie avec 116 personnes à bord s'est écrasé dans le nord du Mali. Air Algérie avait perdu le contact avec l'avion qui assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger. Les autorités algériennes privilégient la thèse de l'accident. Il y a près de 50 Français à bord. Écoutons la réaction du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius.
À l'heure où je m'exprime, aucune trace de l'appareil n'a encore été retrouvée. L'avion s'est probablement écrasé. Les recherches se concentrent à ce stade sur une vaste zone du territoire malien autour de la région de Gao. D'après les dernières informations qui m'ont été communiquées par le gouvernement burkinabé, 51 Français se trouvaient à bord. Mon collègue algérien, avec qui je viens de m'entretenir, évoque une cinquantaine de Français, soit près de la moitié des passagers qui se trouvaient à bord, ainsi que 14 autres nationalités, dont l'équipage espagnol. Le ministère de la Défense déploie ses moyens dans la région pour repérer des traces de l'appareil. Les Algériens et les forces des Nations Unies font de même. Deux Mirage 2000, basés à Niamey, effectuent en ce moment même et depuis ce matin des vols de reconnaissance. Nos moyens militaires dans la région, y compris médicaux, sont tous mobilisés.
Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dit à Bamako que les débris de l'avion ont été repérés dans une zone montagneuse entre Kidal et Tinswaten, dans le nord du Mali.
De son côté, le porte-parole adjoint de l'ONU, Farah Anak, a annoncé que la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, offrira une assistance pour la recherche de l'avion d'Air Algérie. C'est sur demande des autorités maliennes et algériennes. La MINUSMA mobilise aussi son personnel pour toute future opération de sauvetage, une fois l'emplacement exact de l'avion confirmé, a ajouté le porte-parole.
Affrontement dans le nord du Mali entre le MNLA et le MAA dans les localités de Tabamkor, Al-Moustrat et Afanis. Le bilan, qui varie d'une source à une autre, serait assez lourd et les populations de la région s'inquiètent. Sur place à Gao, Boubacar Touré.
Si à Alger, les groupes armés et les autorités du Mali tentent depuis des jours de négocier pour le retour de la paix, dans le nord du pays, les amis d'hier se font la guerre et le bilan varie d'une source à l'autre. Selon des personnes contactées sur place, ces affrontements entre le MNLA et le mouvement arabe de l'Azawad proche de Bamako ont fait plusieurs tués et de nombreux véhicules détruits. D'aucuns parlent d'une trentaine de morts dans les rangs des rebelles Touareg, d'autres affirment que le nombre de tués dépasse largement la cinquantaine de part et d'autre. Il semblerait qu'à Alger, les groupes armés du MNLA et du MAA ont signé un accord de paix qui certainement n'est pas bien perçu sur le terrain. En tout cas, la recrudescence de la violence dans le nord du pays inquiète les populations qui souhaitent vivement que des accords soient signés le plus vite que possible. Gao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Attentat à la bombe à Kano, dans le nord du Nigeria, plusieurs explosions se sont produites dans un quartier majoritairement chrétien. Sur place, on fait le point avec Adamu Gwarzo.
Pour l'instant, la police n'a pas donné les détails comme ça vient juste de passer dans un quartier majoritairement chrétien qui s'appelle Sabongeri. Il y a eu 3 explosions. Mais selon un des confrères qui m'a souligné, qui était présent, il dit qu'il n'y a pas eu de mort. Pour l'instant, il n'y a pas de revendication. Ça s'est passé à 15h, donc il n'y a pas de revendication. Même la police n'a pas pu donner son communiqué officiel.
Notre correspondant Adamu Gwarzo joint à Kano.
Premier cas présumé d'Ebola au Nigeria, un ressortissant du Liberia a été hospitalisé à Lagos où il a été soumis à des tests. Le patient âgé de 40 ans est arrivé de Monrovia en passant par le Togo.
En RCA, de retour du forum de Brazzaville, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a annoncé la formation dans les prochains jours d'un gouvernement d'ouverture. On fait le point avec Idriss Fall.
Pour Catherine Samba-Panza, la signature de l'accord de cessation des hostilités était une étape importante dans la résolution de la crise. Elle a indiqué qu'un gouvernement de large ouverture sera formé.
Des attentes ont été exprimées, donc nous allons ouvrir les bras à nos frères, à nos sœurs qui sont d'autres sensibilités politiques, religieuses, communautaires, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire la République centrafricaine.
De son côté, le représentant du secrétaire général de l'ONU, le général Babacar Gaye, a mis en garde contre le non-respect des accords de Brazzaville.
Les Nations Unies resteront très vigilants sur les problèmes d'impunité, sur les problèmes de droits de l'homme, mais qui resteront également très vigilants sur la tenue des engagements. La communauté internationale ne peut plus se permettre le luxe de recommencer des processus. Il faut que les engagements soient tenus.
Après 72 heures de tractation, l'accord a été finalement signé entre les belligérants centrafricains à Brazzaville.
Les deux Américaines Mouna Osman-Jama, 34 ans, et Hinda Osman-Diran, 44 ans, ont été arrêtées mercredi. 20 chefs d'accusation sont retenus contre chacune d'elles. Jama a déjà comparu devant un tribunal fédéral à Alexandrie et Diran à Seattle, dans l'État de Washington. Selon l'acte d'accusation, les deux femmes avaient envoyé à partir de février 2011 des paiements mensuels au Shebab. Il s'agissait de versements d'environ $100 ou plus, le montant le plus élevé ayant atteint $1 500. Trois étrangers ont également été...
Une touriste étrangère tuée à Mombasa, au Kenya, c'est ce qu'annonce la police. C'est la deuxième touriste à être abattue ce mois-ci dans cette ville de la côte kényane.
Et 5 personnes, dont 2 femmes, ont été inculpées aux États-Unis d'avoir fait passer des fonds à la milice islamiste Al-Shabaab en Somalie. On revient à Camille Gros-Didier.
Les deux Américaines Mouna Osman-Jama, 34 ans, et Hinda Osman-Diran, 44 ans, ont été arrêtées mercredi. 20 chefs d'accusation sont retenus contre chacune d'elles. Jama a déjà comparu devant un tribunal fédéral à Alexandrie et Diran à Seattle, dans l'État de Washington. Selon l'acte d'accusation, les deux femmes avaient envoyé à partir de février 2011 des paiements mensuels au Shebab. Il s'agissait de versements d'environ $100 ou plus, le montant le plus élevé ayant atteint $1 500. 3 étrangers ont également été inculpés. Faria Hassan a été arrêtée mercredi aux Pays-Bas. Fardosa Jama Mohamed et Hassan Abdullahi Barira sont en fuite, probablement vers la Somalie et le Kenya. En 2008, les États-Unis ont placé les Shebab sur la liste des organisations terroristes. En 2012, les dirigeants des Shebab ont annoncé qu'ils faisaient allégeance à Al-Qaïda.
Meriam Yahya Ibrahim Ishag, la Soudanaise chrétienne qui avait été condamnée à mort pour apostasie, est arrivée à Rome. Accompagnée de son mari et de ses 2 jeunes enfants, elle y séjournera quelques jours avant de se rendre aux États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Conflit israélo-palestinien, un obus a percuté une école des Nations Unies à Gaza et le bilan est apparemment très lourd. Jean-Roger Bion.
L'ONU a confirmé qu'un obus israélien a frappé l'école de Beit Hanoun, mais n'a pu confirmer le bilan. Les responsables de la santé de Gaza parlent d'au moins 15 morts et des dizaines de blessés. L'école servait de refuge à des centaines de civils qui cherchaient à échapper à l'offensive israélienne. Pourtant, le porte-parole de l'Agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens, UNRWA, Chris Gannes, a dit sur son compte Twitter, Israël avait reçu les coordonnées précises de l'établissement. Dans un communiqué, Saal a rétorqué que les terroristes du Hamas dans le secteur de Beit Hanoun utilisent les infrastructures civiles et les symboles internationaux comme boucliers humains. L'offensive israélienne se poursuit, les frappes aériennes et tirs de chars ont secoué Gaza, tandis que le Hamas a continué ses tirs de roquettes sur l'État hébreu. De sources palestiniennes, le bilan de l'offensive dépasse 730 morts. Côté palestinien, les efforts se poursuivent pour faciliter un cessez-le-feu.
L'Australie annonce l'envoi de 50 policiers à Londres où ils attendront d'être déployés dans l'est de l'Ukraine dans le cadre d'une présence internationale proposée par Canberra. Leur mission sous mandat onusien sera de sécuriser le site où est tombé l'avion malaisien jeudi dernier.
Aucun des 298 personnes à bord n'a survécu quand l'appareil a été abattu par un missile sol-air. Un pigiste de CNN a été enlevé dans l'est de l'Ukraine. Selon le réseau américain de télévision, Anton Skiba est depuis deux jours entre les mains des séparatistes qui l'ont vraisemblablement pris dans sa chambre d'hôtel à Donetsk. Au moins 13 autres journalistes ont été soit blessés, soit détenus dans la région depuis le début du mois de juillet, rapporte l'OSCE.
Démission aujourd'hui du Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk. Il a donné pour motif le blocage des initiatives gouvernementales au Parlement à cause de la dissolution de la coalition au pouvoir.
Nouveau bilan après le crash d'un avion taïwanais hier entre Taïwan et la Chine continentale. 46 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont identifié 31 morts. 17 autres ne sont pas encore identifiés.
En Irak, le Parlement vient d'élire Fouad Massoum, un homme politique kurde de 76 ans à la présidence de la République, ce qui ouvre la voie à la décision la plus difficile, le choix d'un nouveau Premier ministre.
Des militants ont tué au moins 51 prisonniers et 8 policiers ce jeudi au nord de Bagdad. Par ailleurs, selon les Nations Unies, les djihadistes de l'État islamique ont ordonné l'excision de toutes les femmes et jeunes filles dans la ville de Mossoul et ses environs, soit environ 4 millions de personnes.
La Norvège pourrait être la cible de terroristes liés aux islamistes de Syrie, a déclaré l'Agence nationale de renseignement à Oslo. Elle précise que 50 personnes ont quitté le pays le mois dernier pour se joindre à la lutte des djihadistes en Syrie. La moitié d'entre elles sont depuis revenues en Norvège.
Deux Finlandaises travaillant pour une agence chrétienne ont été tuées à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, alors qu'elles roulaient dans un taxi. Les deux assaillants n'ont pas été identifiés. Les victimes travaillaient justement pour la mission d'assistance internationale, une ONG présente en Afghanistan depuis 48 ans.
Encore de bonnes nouvelles pour l'économie américaine. Les requêtes d'assistance chômage ont chuté la semaine dernière à leur niveau le plus bas depuis 2006. Le taux de chômage national est à 6,1%, bien que plus de 9 millions d'Américains soient encore sans emploi.
Voilà pour notre journal. Ici Chérumène Orsil, en compagnie de Morgane Guiriec. Il est 18h43 en temps universel. Vous écoutez La Voix de l'Amérique.
Le vol AH-5017 de Air Algérie, qui est décollé de l'aéroport de Ouagadougou dans la nuit de mercredi à jeudi, n'est pas arrivé à destination. Les causes premières de ce crash dans la région de Gossi, dans le désert malien, seraient le mauvais temps. La cellule de crise mise en place s'active pour le localiser. Le point à Ouagadougou avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
On écoute l'annonce du crash avec le général Gilbert Diendéré, le chef de la cellule de crise.
Notre informateur nous a dit que ça se trouvait à peu près 80 km au sud-est de la ville de Gossi. La ville de Gossi se trouve au Mali. L'endroit qui a été donné par notre informateur correspond à peu près à l'endroit où le signal radar a été perdu par la tour de contrôle. Nous avons parallèlement à cela contacté les autorités du Mali parce que c'est un territoire malien, pour leur donner cette information et voir comment nous pouvons coordonner les recherches à ce niveau-là.
Sur les causes probables, voici ce que le général Diendéré a dit.
Et selon ce que nous avons vu sur les images radar, l'avion a dévié de sa trajectoire. Il a dévié à cause d'un orage. Pensons peut-être que cela pourrait être la cause de ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune certitude. Nous n'avons pas encore vu l'avion. Et donc, nous attendons de voir, de constater sur le terrain avant de pouvoir donner toutes les autres informations utiles.
La cellule de crise a aussitôt pris attache avec les familles des passagers de l'avion. Suivant ce que leur a dit Jérôme Bougma, il est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Burkina.
Nous venons vous apporter la compassion, le soutien du gouvernement. À l'heure qu'il est, les nouvelles ne seront pas bonnes. Toutes les hypothèses sont envisagées. Les forces françaises, algériennes, burkinabées sont toutes mobilisées pour localiser cet appareil. Quelle que soit la situation, qu'il y ait des survivants, si toutefois le pire devait craindre, nous prions qu'il y ait des survivants.
Des numéros verts 75 68 21 59 79 12 00 43 sont ouverts pour donner les informations concernant ce crash. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
24 heures après la fin de la conférence de Brazzaville, beaucoup restent perplexes sur le document final qui a été adopté dans la capitale congolaise. Certes, l'arrêt des hostilités en République centrafricaine est inscrit sur le papier, mais le désarmement et le dialogue politique restent en suspens. Nicolas Pidot a joint à Brazzaville le chercheur Thierry Vircoulan.
On a traité un point sur trois, c'est-à-dire la cessation des hostilités et pas la question du DDR et du dialogue politique. Ce qui est frappant, c'est que pendant ces trois jours à Brazzaville, il y a eu une complète absence de dialogue entre les parties combattantes, c'est-à-dire entre la Séléka et les anti-Balaka. La Séléka, finalement, n'a assisté que le lundi matin aux trois jours, ce qui était censé être trois jours de négociations, et après a mené la politique de la chaise vide. Cette conférence ou négociation qui était censé être le début du dialogue politique entre centrafricains, n'a pas permis de matérialiser ce dialogue, qui maintenant est renvoyé à d'autres réunions à Bangui.
La question du désarmement a été complètement oubliée. Est-ce un danger et finalement le maintien du statu quo sur le terrain ?
Elle a été mise de côté par la Séléka, qui a remis en cause en quelque sorte la préparation de cette conférence en disant dès lundi qu'ils n'avaient pas eu les documents et donc qu'il fallait qu'ils se concertent entre eux et y travaillent et qu'il n'est jamais revenu après dans la salle des négociations. Donc évidemment, ça ne faisait pas sens. Il y avait un groupe de travail sur le désarmement. Ça ne faisait pas sens pour ce groupe de travail de continuer sans la Séléka.
Partition de fait sur le terrain en Centrafrique et la négociation politique qui n'a pas vraiment abouti sur ce sommet de Brazzaville, finalement, qu'est-ce qui reste à sauver en Centrafrique au niveau de l'unité nationale ?
Ça, c'est la question en effet qu'on se pose actuellement parce que même à Brazzaville, d'une part, la délégation de la Séléka a ouvert la conférence le lundi en parlant de partition. Elle a terminé la conférence mercredi en disant que les musulmans étaient discriminés et martyrisés en Centrafrique. Donc tout cela n'est guère optimiste. Maintenant, il y a deux questions essentielles. La première, c'est de savoir si l'accord de cessation des hostilités va se traduire sur le terrain. La deuxième, c'est de savoir quand les réunions de dialogue politique qui sont prévues à Bangui, en Centrafrique, vont commencer.
C'est le chercheur Thierry Vircoulon d'International Crisis Group.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Côte d'Ivoire, l'opération de déguerpissement entamée par le gouvernement après les inondations qui ont endeuillé des familles dans les sous-quartiers jugés à risque ne rencontre pas l'assentiment des populations. À Gobélé et Séma, dans la commune de Cocody, les forces de l'ordre ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour se frayer un passage. Reportage de Germaine Dry.
Ce sont des sous-quartiers Gobélé et Séma habituellement peuplés de monde que nous avons trouvé calme ce jeudi. Sur les sites, l'on constate les traces de caterpillars, des maisons à moitié démolies, des feuilles de tôle froissées, des personnes assises à même le sol. Bref, des habitants qui dorment à la belle étoile depuis le passage des machines. Abassa Donatien, président des ressortissants CDAO du quartier.
On va aller rester où? Maintenant, on va dormir dans les rues ou bien où est-ce qu'on va déposer nos enfants? Depuis 15 ans, moi j'habite dans le quartier. Il n'y a jamais eu d'inondation, il n'y a pas eu d'éboulement de terre. C'est dans les rues qu'on va trouver notre sécurité ou bien.
Seydou Bila affirme avoir été surpris par cette opération.
C'est pas que quatre pour qui est venu, on nous casse comme ça. Tout, mon but que vous portez, c'est ça qui a laissé mon billet. C'est tout ça, mon billet qui a laissé, c'est ça. Il n'y en a même pas autre à faire. Mon enfant est là, petit bébé, sont là, on ne sait pas comment il va vivre. Mais 5 francs, nous n'avons pas gagné ici.
Kounate Mariam, qui était sur les lieux, nous fait le récit des faits.
On était là, et à un moment donné, il y a des machines qui sont arrivées, ils ont tout cassé. Actuellement, c'est ce qui est sur moi. Je n'ai rien, on a tout perdu, on ne sait même pas quoi faire. Et puis en plus de ça, il y a des policiers qui sont venus, ils ont tapé, ils ont lancé les lacrymogènes, il y a eu des blessés, tout ça. On est dans la rue, s'il pleut actuellement, on ne sait pas quoi faire.
Pour le porte-parole du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises. C'est pourquoi Bruno Kone fait savoir que l'opération ira jusqu'à son terme.
Nous percevons bien qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle-là. Il faut que ces populations-là soient sorties de ces endroits qui ne sont pas des endroits où des personnes peuvent habiter. C'est leur intérêt, nous espérons que chacun le comprendra. Il faut noter que ces populations, pour la plupart, ont déjà été dédommagées, il y a 2 ans, ont été dédommagés l'an dernier et ont même été dédommagés cette année.
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan ont occasionné de nombreux décès et créé des situations insoutenables. À la cité Evea, sur la route de Benjerville, des familles ont quitté leur maison à cause d'un voisin qui a bouché le caniveau. Les habitants ne savent plus à quel sein se vouer.
Madame Dagou Akassimadou, la présidente des femmes de la cité Evea. Selon la disposition du quartier, le coulement normal de l'eau, le docteur Pudé a érigé une clôture à cet endroit. Donc vraiment, c'est vraiment difficile pour nous que l'eau naturelle de pluie puisse s'écouler. Donc quand il pleut, les hommes ne dorment plus. Ils sont obligés de veiller à ce que chaque maison puisse être éveillée, essayer d'évacuer, faire sortir l'eau.
Les règlements à l'amiable de cette affaire n'ayant pas abouti, les protagonistes se sont retrouvés devant les juridictions compétentes du pays. Moro Nkez, président des propriétaires de la cité.
Nous sommes allés en justice et nous continuons de faire confiance à la justice pour que justement justice soit faite.
Pendant ce temps, les pluies continuent d'arroser la capitale économique quand la grande saison est annoncée pour bientôt. Germaine Dry, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Sénégal, les salariés qui n'ont pas toujours perçu leur salaire s'inquiètent de la fête de la fin du Ramadan qui s'approche. Si dans le secteur public, les espoirs sont permis, dans le secteur privé, ce n'est pas le cas. Dienaba Sedouba.
Devant le building administratif, siège du gouvernement sénégalais, un groupe de messieurs papote sous l'arbre. C'est l'heure de la pause. Ramadan oblige. À défaut d'un copieux repas, ces messieurs se curent les dents et discutent de l'actualité. La forte actualité, c'est aussi la fête de l'Aïd el-Fitr qui sera célébrée dans moins d'une semaine. Cette fête, à dépenses, inquiète guère ses fonctionnaires. Kassoum Diallo et ses collègues sont convaincus que le salaire sera payé à temps pour assurer les dépenses de la fête.
D'habitude, le gouvernement il s'est toujours débrouillé à pareilles occasions de mettre les salaires à disposition des agents. Et j'ai bon espoir qu'il fera de même pour cette fois-ci.
Dans la fonction publique, nous pensons que les salaires vont passer ou bien seront disponibles avant la fête.
Le cas contraire n'est même pas envisagé par Omar Bassoum, qui préfère lui être convaincu que l'argent sera à temps dans les comptes.
Je n'envisage pas l'hypothèse contraire, parce que je pense que ça va tomber, Inch'Allah, à temps pour les salariés.
Le plus souvent, les salaires tombent en général le 25 ou bien le 26. Et ça pourrait peut-être soulager les pères de famille par rapport à la fête qui s'annonce dans une semaine.
Si dans la fonction publique, les salaires peuvent être disponibles avant la fête, dans le public, les travailleurs vivent dans l'incertitude. Ce monsieur évolue dans le milieu depuis une vingtaine d'années. Il s'appelle Alun Fall.
Il faudrait aussi que les gens tiennent compte de l'action sociale, quoi.
le 27, le 28 du mois, c'est déjà un mois très creux.
Selon la législation du travail, le patronat a jusqu'au 8 du mois pour payer les salaires, ce que les travailleurs du secteur public et privé déplorent. Les lois doivent être revues. Kassoum Diallo, à l'UNFAL.
Il faudrait aussi que les gens aussi pensent à changer les lois aussi, quoi. Le 8, c'est plus la fin du mois. Hein. La fin du mois, c'est le 30, le 31.
C'est là où la législation devait prendre des dispositions par rapport à ce secteur-là, qui est presque occupé par la quasi-totalité de la population sénégalaise. Surtout, c'est eux qui sont le plus souvent victimes de ces genres de trucs. Parce que les patrons, en général, ils soutiennent à chaque fois qu'ils peuvent aller jusqu'au 8 du mois. En fait, quand il y a des événements sociaux, il y a lieu quand même de faire un geste, ça ne reste qu'un geste, pour pallier à ces genres de difficultés que les pères de famille peuvent rencontrer.
Dans un pays où 95% de la population est musulmane, les salariés, qu'ils soient dans le privé ou le public, ont besoin de leur salaire pour fêter comme il se doit cette journée qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Pour le secteur public, les fonctionnaires vont recevoir d'ici lundi leur salaire. Ce sont là les assurances de l'État. Et du côté du secteur privé, rien n'est sûr. Yéna Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, c'est aussi les sports. Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir, chérubin.
En football, Steven Keshi en piste pour rester à la tête des Nigérians.
Et oui, la fédération est prête à entamer des discussions avec son sélectionneur national pour renouveler son contrat. En poste depuis 2011, Keshi est arrivé en fin de contrat après le Mondial brésilien. Son nom a été cité depuis pour le poste vacant, notamment de sélectionneur de l'Afrique du Sud. Keshi, 52 ans, a mené, souvenez-vous, les Super Eagles en 8e de finale au Brésil. Ils sont tombés contre la France et surtout à un troisième titre en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2013 en Afrique du Sud.
La République démocratique du Congo se retire de la course pour organiser la CAN 2019, c'est ça?
Et oui, la Fédération congolaise de football a fait cette annonce sans donner les raisons de son désistement. Par conséquent, la mission dans ce pays des experts de la CAF, la Confédération africaine de football, prévue du 16 au 20 juillet dernier, avait été annulée. Je vous rappelle que la RDC, qui n'a jamais organisé la CAN, était en concurrence pour cette 32e édition avec l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Zambie.
Football au niveau des clubs, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe du Burkina Faso.
Et oui, l'étoile filante de Ouagadougou et le Racing Club de Bobo-Dioulasso se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Faso. Hier, l'étoile a éliminé le détenteur du trophée, la SFA Yenega, 1-0. Et dans l'autre demi-finale, le RC Bobo a pris le meilleur sur l'Union Sportive de Ouagadougou. 2-0, la finale, chérubin, est prévue le 5 août prochain à Bobo-Dioulasso.
Et une mise à jour sur le cyclisme, le Tour de France.
Et deux Français, Thibaut Pinot, rien à voir, et Jean-Christophe Perrault ont pris place sur le podium virtuel du Tour de France derrière l'intouchable maillot jaune, l'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur ce jeudi à Otakam de la 18e étape, la dernière de montagne. L'ultime ascension des Pyrénées a laissé intact le suspense pour la fin du Tour dans la perspective du contre-la-montre de Périgueux, à distance de Nibali qui porte son avance à 7 minutes 10 sur Pinot, le deuxième au classement général.
Merci Nicolas Pinault.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. La chanteuse Madaba est une chanteuse sénégalaise. En 1986, Madaba a commencé sa carrière en format en duo avec Ousmane Diallo, surnommé Ouza, pour chanter la chanson Africain. Puis elle intègre le groupe le Lemzo Diamono en 1991, où elle s'est découverte au niveau international. Ce soir, on l'écoute dans My Baby.
Samba, samba dum jungle.
sur cette note, nous mettons fin à cette édition. Le Monde aujourd'hui vous est parvenu en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington. À la technique, nous avions Yemi Obadjimi et Nelson Lopech. À la présentation,
Morgane Guiriec
et chez Ruben Orsine.